Bonjour à toutes et à tous. En effet, le thème des nouvelles vagues cette semaine, c'est le désir. Demain, nous nous demanderons comment placer le désir d'apprendre au cœur de l'enseignement. Mercredi, nous nous demanderons ce que l'accès immédiat et infini à des images érotiques ou pornographiques sur le net fait au désir. Jeudi, ce sont des jeunes metteurs en scène et auteurs de théâtre qui s'interrogent sur le malaise de la formulation du désir, au théâtre par exemple. Et vendredi, une carte blanche cinématographique nommée Désir, voilà pour le programme de notre série aujourd'hui. Il s'agit de savoir si l'on désire ce que l'on veut, vice-versa, et ce que le corps en dit.
Moi, je ne sais pas si je peux être psychanalysé, j'en sais rien du tout, parce que pour moi, personnellement, ça ne me donne rien du tout, ça ne m'apporte rien du tout. Je pense que je suis un homme assez équilibré, qui n'a pas besoin d'être psychanalysé, à mon avis. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a des choses qui me... Il y a peut-être des choses qui me manquent, que j'ignore, et que j'ai toujours ignoré toute ma vie.
Au département de lettres d'une université européenne, dans la classe de philologie d'un spécialiste de Dante, Emmanuel, l'une des élèves, suggère de créer une académie des muses. L'hypothèse de leur professeur étant la suivante: en se faisant muse, les femmes d'aujourd'hui pourraient reconvertir les hommes au beau. Embarqué dans cette expérience, le cinéaste José-Louis Guérin offre à la parole du professeur des éclairages fictifs, des contrepoints, des contradictions, mais aussi une possibilité de prendre au mot ces théories du désir, de l'amour et de poésie. En résulte un film original où l'histoire littéraire croise l'histoire tout court et passe comme un courant entre les corps qui ne reculent pas devant l'expérience du désir. L'Académie des Muses, c'est le titre du film, est sorti il y a un mois, mais il se voit encore sur certains écrans, c'est rare. Il est 14h passées de 2 minutes, vous écoutez France Culture, bienvenue dans les Nouvelles Vagues. Et les Nouvelles Vagues, c'est bien sûr le nom que nous donnons à ce que nous observons changer, se renouveler, se redire dans le monde contemporain. C'est aussi ce qui, en son temps, a ouvert dans le parcours de chacun des nouvelles voies. Chaque semaine, nous demandons à quelqu'un de s'en souvenir. Et jusqu'à vendredi, c'est l'éditeur Henri Dougier qui fait cet exercice au micro de Romain de Bec de Lièvre. Aujourd'hui, il évoque sa visite émerveillée du musée Insel und Bräuch à Düsseldorf. Non seulement la collection l'impressionne, mais la manière d'agencer les objets et les œuvres d'art, pas scolaire, pas organisée, l'émeut. Promenade vers 14h45. Premier moment d'une semaine thématique sur le désir. Et si le savoir libère le désir, alors nous serons du côté du savoir pour commencer. Lequel ? Celui dont la psychanalyse propose de faire l'expérience. Quelque chose qui se formule en séance, s'invente au fur et à mesure, passant parfois d'abord par le corps comme des inscriptions qu'il s'agirait de lire, relire ou entendre. L'engagement du désir de l'analyste dans ce jeu d'écoute et de parole mène chacun jusqu'à son réel. Et sur le chemin de cela, il nous faudra questionner le lien qu'entretiennent symptômes et désirs, mais aussi langage et désirs, mais encore jouissance et désir, ou encore fantasme et désir. Pour tout ça, vous proposez, Hélène Bonneau, de prendre le corps au mot. C'est le titre de votre ouvrage paru aux éditions Navarin, Le Chanfreudien. On peut aussi citer un autre ouvrage, L'inconscient de l'enfant, du symptôme au désir de savoir. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
Il y a un phénomène d'usure qui concerne tous les termes analytiques. Dans notre expérience même, les mots, au bout d'un certain temps, s'usent, perdent leur relief et leur portée. Alors aujourd'hui, sans doute sous l'influence de Lacan, un terme comme « désir » s'est répandu à l'écoute de mon désir, sans qu'on sache très bien si c'est le désir au sens sexuel du terme ou si c'est le désir le plus profond qui serait toujours dissimulé, qu'on chercherait sans y parvenir à réaliser.
Alors on commence par un extrait d'une nuit magnétique diffusée sur France Culture en 1993 où on entend l'idée selon laquelle le mot désir serait usé. Alors quelques 23 ans plus tard et en entamant ces 5 émissions sur le désir, Hélène Bonneau, est-ce qu'on peut dire qu'il est usé ce mot-là?
Oui et non. Je dirais que d'une certaine façon, son emploi à tout va donne cette idée qu'en effet, on parle trop du désir. En tous les cas, on en parle d'une façon... on confond, par exemple, la demande, on confond le besoin, on confond... oui, la demande et le besoin avec le désir, alors que le désir est quelque chose de beaucoup plus compliqué à attraper, quelque chose de beaucoup plus anormal, je dirais. Et c'est cette anormalité qui nous intéresse dans la psychanalyse, parce qu'il ne s'agit justement pas de s'occuper, par exemple, du désir, d'un désir à satisfaire, je ne sais pas, le désir d'avoir une maison, ou un beau jardin, ou une belle fleur, ou une belle femme, je ne sais comment le dire, mais le désir inconscient, qui est quelque chose de beaucoup plus aventureux, de quelque chose de beaucoup plus... Qui nous échappe, dont on ne peut pas savoir exactement ce qu'il est, parce qu'on ne sait pas forcément ce qu'on veut.
C'est d'ailleurs assez intéressant, parce qu'on a aussi l'impression qu'il échappe parfois au langage, ce désir. Dans cette archive, on entend cette personne dire « voilà, on ne sait pas si on parle d'un désir sexuel ou, et d'ailleurs il bafouille un peu, ou d'un désir un peu plus profond, un peu plus indéterminé ». Cette distinction, cette différence du désir dont on va parler aujourd'hui et de ce qu'on appelle le désir sexuel, est-ce qu'elle est importante à faire ?
Selon Freud, le désir est éminemment sexuel. Même si, en effet, pour se présenter, il met des habits, enfin, il se déguise, il n'apparaît jamais complètement à nu, et notamment dans le rêve. Mais c'est le fondement même de l'expérience de l'inconscient, de découvrir qu'en effet, la sexualité est quelque chose de très important pour l'être parlant.
Et pourtant, est-ce que la question du désir agit nécessairement dans la vie courante, uniquement sur le terrain de la sexualité ? Est-ce qu'on ne peut pas parler d'un désir, tel que vous le faites aussi dans vos livres, d'un désir qui est un élan vital, une puissance vitale qui s'exerce dans d'autres champs que le champ concret de la sexualité ?
Bien entendu, puisque bon, en effet, le désir, si c'est un désir sexuel au départ, il trouve à s'orienter différemment d'abord il y a la sublimation, qui est une façon de transformer le désir sexuel, mais il y en a d'autres. La curiosité, c'est une sublimation de la pulsion sexuelle, en fait, si vous voulez. Mais pour Freud, au départ, tout partait de cette idée-là, de cette découverte qu'en effet, c'est la sexualité qui est au cœur du désir.
Est-ce qu'il faut forcément penser le désir en rapport avec un manque ? Puisque la philosophie l'a beaucoup pensé comme telle, et pas que. Qu'est-ce que ce serait le désir, alors ?
Lacan a une très belle formule pour le dire. Il dit que le désir, c'est la passion du signifiant. Et d'ailleurs, d'une certaine façon, ça répond un peu à ce que disait le monsieur qu'on vient d'écouter quand il parle du désir et de son usure. Dans une analyse, ce qui nous porte, c'est cette passion des mots, c'est cette passion des mots et du savoir. C'est-à-dire que on cherche à savoir ce qu'on veut à travers ce qu'on dit. C'est une approche évidemment sur soi-même. C'est une sorte de lecture de son inconscient comme présence, et non pas comme une poche de souvenirs. Bien sûr, les souvenirs sont très importants à évoquer parce qu'ils se réfèrent tout simplement à l'enfance. Et pour la psychanalyse, l'enfance, en fait, est toujours traumatique. Les événements de l'enfance et les paroles qui se sont dites autour de l'enfant ont presque toujours un effet traumatique, en tous les cas pour celui qui vient demander une analyse. Et on vient demander une analyse quand on a des symptômes et quand on souffre et quand on est malheureux. Donc tout le monde ne relève pas de cette demande, mais C'est un désir singulier qui est à l'œuvre. Le désir de savoir.
Le désir de savoir. Et en même temps, vous écrivez que le savoir libère le désir. Alors qu'est-ce qu'il faut entendre par cette phrase-là, qui semble être un véritable pivot dans la manière dont vous pensez notamment le rapport à la parole et à l'analyse? On viendrait pour le désir de savoir en analyse, parce que le savoir libère le désir?
Oui, c'est exactement ça. Le savoir libère le désir, mais c'est une opération de symbolisation, ce qui se fait malgré soi, ou en tous les cas, sans qu'on en ait forcément une grande conscience. C'est-à-dire que les patients, d'ailleurs, s'étonnent toujours des effets de la parole et du pouvoir de la parole. Ils comprennent pas très bien comment ça se fait que, au bout de très peu de temps de séance, ils se sentent allégés, ils se sentent beaucoup mieux dans leur vie, ils voient les choses autrement, ça se transforme, et finalement, ils ne reconnaissent pas dans ce mieux-être un effet de cette parole, de cette ouverture qu'est la parole dès lors qu'elle s'adresse à un psychanalyste, bien entendu.
Parce que vous faites la différence entre une parole qui n'est pas une parole qui allégerait, qui est la parole échangée entre deux amis au café, ou avec un collègue, ou encore avec un médecin généraliste dans un cabinet de ville. Il faut quand même dire combien cette parole-là, elle est spécifique, et ce qu'elle a de spécifique pour justement être le vecteur de l'expérience de ce savoir qui libère le désir. Pourquoi c'est une parole pas comme les autres?
Déjà parce que le psychanalyste est un partenaire qu'on ne rencontre pas sans le désirer. Il faut faire la démarche, il faut le demander, il faut le vouloir, il faut y avoir consenti aussi.
Ça pourrait être vrai pour des rencontres amicales. On pourrait considérer qu'on ne rencontre pas autrui, que ce soit un ami ou un amoureux, sans l'avoir désiré. Et pour autant, ce n'est pas la même parole qui est en jeu.
Bien entendu, puisque la parole qu'on adresse au psychanalyste, c'est celle de son inconscient. Et donc, celle, finalement, du côté le plus sombre de ce qu'on a dans la tête, ou de ce qu'on ressent, ou de ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Et c'est dans cette difficulté à aborder ce qui ne va pas qu'on essaie d'avancer quand on fait une analyse.
Le désir n'est pas la passion inutile où se formule l'impuissance à le penser des théoriciens de l'intention existentielle. Le désir est proprement la passion du signifiant, c'est-à-dire l'effet du signifiant sur l'animal qu'il marque et dont la pratique du langage fait surgir un sujet. Un sujet non pas simplement décentré, mais voué à ne se soutenir que d'un signifiant qui se répète, c'est-à-dire comme divisé. D'où cette autre formule. Le désir de l'homme, si l'on peut dire, c'est le désir de l'autre. En l'autre est la cause du désir d'où l'homme choit comme reste.
Alors voilà une voix que vous connaissez un peu, celle de Jacques Lacan. C'est une archive du séminaire 1958. Le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. C'est une phrase qui est aussi discutée, éclairée dans vos ouvrages, Hélène Bonneau. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. Si on déplie un peu.
Il faut évidemment considérer ce qu'est l'autre tel que Lacan l'entend, c'est-à-dire c'est l'autre symbolique, c'est le lieu de la parole, c'est le lieu du langage, c'est l'autre en tant que on s'adresse à lui, et c'est l'autre aussi qui nous constitue dans ce monde du langage, c'est-à-dire que le désir de l'homme, c'est le désir de l'autre. C'est aussi comment s'inscrit chacun d'entre nous, chaque sujet, dans le langage. Et la rencontre avec le langage, elle se fait dès les premiers moments de la vie. Et même pour Lacan, Lacan dit finalement que on est touché par par la façon dont on est parlé par l'autre, justement, dont on est parlé. Parler par l'autre, ça veut dire parler par les personnes, par les parents, notamment, par ceux qui nous ont conçus, ou ceux qui nous ont désirés, ou pas désirés, par ceux qui nous ont attendus, ou pas attendus, longtemps, pas longtemps, etc. Et cet enfant, au départ, il est pris dans cette parole. Il est déjà pris dans un bain de langage qui fait qu'en effet, on ne vient pas complètement au monde sans aucun mot. Ou alors, c'est vraiment une catastrophe subjective qui peut conduire certains à ne jamais pouvoir se servir de la parole.
Et quand vous dites que l'enfant, et vous l'écrivez avant sa venue au monde, est pris dans ce langage, est pris dans le désir de l'autre, la formulation du désir de l'autre, quelle incidence cela a sur son propre désir, à lui, une fois devenu adulte?
Mais toutes sortes de... toutes formes de... d'impact. Dans, ce qui compte en effet, c'est que ce désir, il soit reconnu déjà, même par l'enfant, tout petit. Il ne se trompe pas forcément quand il sur la façon dont il est accueilli. Je veux dire, quand certains enfants pleurent du matin au soir sans qu'on comprenne pourquoi, etc. Je ne dis pas qu'il n'est pas accueilli, mais il peut être accueilli d'une façon telle que l'angoisse est de la mère ou du couple empêche cet enfant de profiter de sa façon d'être vivant. Il faut qu'il sente en effet un minimum de sentiments de sécurité, d'amour, de plaisir, de satisfaction, pour qu'il se sente, pour l'apaiser, parce qu'un enfant, tout seul, sans soins, il meurt. S'il n'est pas entouré, s'il n'est pas nourri, évidemment, s'il n'est pas... c'est une des particularités, d'ailleurs, de l'être humain, c'est sa dépendance extrême. Et on sait que s'il n'est pas pris et accepté comme tel dans ce moment de venue au monde, ça aura des conséquences pour lui.
Vous questionnez aussi cette expression du désir d'enfant dans un chapitre de votre livre qui s'appelle La grossesse. Alors vous appliquez aussi à décrire des cas cliniques et à raconter des patientes souvent, mais pas que, qui ont eu à exprimer ce désir d'enfant. Qu'est-ce qu'il faut entendre dans cette formulation un peu mystérieuse? Qu'est-ce qu'on désire quand on désire un enfant?
On désire un enfant, mais quel enfant est en jeu dans le désir d'enfant? C'est évidemment très compliqué, en fait, parce que le plus souvent, dans ce désir d'enfant, il y a toute la problématique de la féminité. Toutes les femmes ne souhaitent pas un enfant. C'est une des voies, Freud l'a dit normale, mais en fait, c'est une des voies pour la fille, à la sortie de l'Œdipe, de construire sa vie future et d'avoir dans la tête qu'elle aura un enfant ou des enfants.
Quand c'est l'homme qui désire un enfant?
C'est très différent. D'ailleurs, c'est très nouveau que les hommes souhaitent des enfants.
Ah bon?
Je pense que le désir d'enfant s'inscrit d'abord dans le complexe d'Œdipe féminin, d'abord parce qu'elle a souhaité avoir un enfant de sa mère, ensuite un enfant de son papa, et selon les réponses de son père et de sa mère, elle aura ou pas envie d'avoir un enfant.
Alors mais tout que... ça explose aujourd'hui dans une famille qui se dit, se compose, se désire autrement. J'imagine qu'on ne peut définitivement plus exactement formuler les choses de cette manière-là.
Je ne crois pas que ce soit un obstacle. Les gens savent aujourd'hui, justement, où les couples ne sont plus pérennes, justement parce qu'ils ne sont plus fondés uniquement sur le couple parental. Autrefois, je me rappelle très bien, dans les années 60, 70, c'était la mode des divorces, c'était le début des divorces, et on pensait que les enfants du divorce étaient absolument intolérables, qu'ils souffriraient trop, qu'ils seraient traumatisés, etc., etc. Et puis finalement, on s'est rendu compte que, certes, c'est pas un moment souhaitable pour un enfant de traverser une séparation de ses parents. Ça fait peut-être éventuellement trauma pour lui, mais enfin, on a quand même pensé que sacrifier sa vie pour le bien-être de ses enfants était tout aussi problématique. Et donc, les mères sacrifiées n'ont plus eu le goût pour ça. Et aujourd'hui, les divorces sont souvent demandés par les femmes. Donc, c'est toute une façon de nommer finalement ce que c'est qu'un désir d'enfant. On sait que le désir d'enfant, justement, il est au-delà du désir du couple. Et d'ailleurs, aujourd'hui...
Ça veut dire quoi ? Le désir d'enfant est au-delà du désir du couple ?
C'est-à-dire qu'il transcende l'idée du couple. Bien que, évidemment, quand on fait un enfant, la plupart du temps, on souhaite que le couple parental devienne, soit heureux, constitue une cellule, et que l'enfant ne vienne pas empêcher le couple de se poursuivre. Mais on sait aussi que l'amour change et que le changement qu'opère, qui peut se produire entre les partenaires, peut à un moment donné nécessiter une séparation. Mais le couple parental, c'est ça l'important, aujourd'hui, demeure au-delà du couple homme-femme.
D'ailleurs, en parlant d'amour, vous écrivez, il me semble que à un moment donné dans le livre, probablement vous référant à un cas clinique que vous décrivez, que l'amour et le désir ne sont décidément pas du même côté. Alors ça, c'est un adage qui a une vieille peau, ça fait longtemps qu'on dit ça. Qu'est-ce qu'on veut dire quand on dit ça exactement ? Que l'amour et le désir ne sont pas du même côté ?
C'est compliqué à dire en quelques mots.
Mais on a plein de temps.
On le voit dans certains cas, dans la névrose obsessionnelle, par exemple. Freud a beaucoup insisté là-dessus, parce que d'un côté, l'homme, il désire pas là où il aime. Il va désirer, il va aimer une femme, il va vouloir lui faire des enfants, et puis il va désirer à l'époque de Freud.
Oui, c'est ça, à l'époque de Freud.
Mais c'est toujours vrai.
C'est vrai.
C'est toujours vrai, sauf que, justement, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde sait qu'on n'est pas à l'abri d'une rencontre de désir. Et que c'est cette rencontre avec le désir, que ce soit un homme ou une femme qui fasse cette rencontre, elle va emporter la relation d'amour initiale, si je peux m'exprimer ainsi.
Emporter, c'est-à-dire la déplacer, cette relation-là ?
Elle va peut-être tout faire exploser. C'est-à-dire que l'amour, finalement, le sentiment amoureux, si le désir n'est pas inclus dans le sentiment amoureux, s'il se divise, il y a un risque que le désir l'emporte sur l'amour.
C'est ce que vous écrivez aussi lorsque vous dites que le désir est plus fort que la loi, que l'institution ?
Oui, je l'ai pensé en tous les cas par rapport à... Je suppose que vous faites référence à ce que je dis dans l'institution ou l'institution du mariage, par exemple. Oui, oui. Le désir est plus fort que la loi. Enfin, c'est un petit peu ce que j'ai essayé de transmettre au niveau du mariage pour tous. Et puis aujourd'hui, en effet, on voit bien que les lois viennent après coup. Enfin, la loi essaie toujours de rattraper la façon dont les êtres parlants organisent leur vie, enfin leur mode de vie, leur mode de jouissance. Aujourd'hui, tout le monde trouve normal que deux hommes se marient parce qu'ils s'aiment. C'est des choses qui, à l'époque de Freud, par exemple, auraient été impensables. Et donc, on admet, on avance, finalement, on avance avec la façon dont chacun met au jour, finalement, ses modes de jouissance. Et les reconnaît. Et la société finit par leur donner un certain sens et une certaine reconnaissance. Ça a été tout le combat de l'homosexualité quand même.
Et le désir demeure, cette force-là demeure une fois qu'elle est reconnue par l'institution, par la loi, une fois qu'elle n'est plus cette force de désir en dehors de celle-là ?
C'est sûr que... Lacan le disait, en fait, l'homosexualité, tant qu'elle était marquée par justement un interdit, elle était une façon de manifester ce qu'est le vrai désir, finalement. Parce que le désir a toujours ce côté un peu clandestin, il est plus magique. Les enfants en font très 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 tôt l'expérience, c'est plus drôle de manger des bonbons en cachette, parce que l'objet du désir c'est le bonbon, mais dès lors qu'il est désiré et en cachette, c'est beaucoup plus jouissif que quand c'est la mère qui le donne. C'est un petit exemple, mais dans le désir, la transgression du désir, évidemment, je trouve pas le qualificatif, mais beaucoup plus exaltante. Toute forme de transgression, d'ailleurs, d'une certaine façon. Rend compte de ça.
Ça vaut aussi, par exemple, pour les cas de consommation, de drogue, etc., sur lesquels vous revenez avec certains patients ou patientes. Ce serait cette idée de transgression aussi qui serait à l'œuvre ?
Dans certains cas, mais pas toujours. En fait, moi, je pense plutôt que la drogue, c'est une mauvaise rencontre, plutôt qu'un désir. C'est une mauvaise rencontre avec un objet dont on va devenir dépendant. Donc, évidemment, il faut des conditions pour ça, mais c'est plutôt de l'ordre de la jouissance que du désir. C'est-à-dire que, certes, par exemple, si on prend la cigarette et pourquoi les jeunes aiment fumer, les tout jeunes maintenant aiment fumer, bon, ou boire, c'est évidemment qu'ils sont tentés par une expérience d'un objet qui est interdit ou pas très recommandé. Mais à partir du moment où il devient cet objet absolument impossible au sujet de s'en passer, ça devient plutôt un cauchemar qu'un désir.
Mais ça reste une jouissance.
Et c'est une jouissance au sens où c'est une jouissance mauvaise, mais qui s'impose au sujet. C'est-à-dire qu'il en souffre, il ne peut pas s'empêcher d'y avoir recours, et en même temps, pourquoi il ne peut pas s'en empêcher ? Ben parce que d'abord, ça lui procure une énorme satisfaction, une satisfaction qui fait tomber quelquefois la souffrance, justement, qu'il peut avoir quand il est en dehors de cette prise de drogue ou d'alcool ou de je ne sais quoi, puisque maintenant il y a toute forme d'addiction qui sont mises en jeu sur ce même mode de la répétition. Mais là, il s'agit plus d'une jouissance que d'un désir. Started with explosions, the sound of bombs in your heart. But just like everything, the sounds would fade and fall apart. It's the echo sound of your love. It started strong, but it quickly fades. It's the echo, 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 as your heartbeat fades away.
Rappeler la très belle étymologie latine du mot désir, qu'on entend mieux en italien desiderere, parce que ça vient de l'étoile, Sidius, et donc de la sidération, ce qui est le fait d'être touché par l'étoile ou par l'astre et d'être frappé. Mm-hmm. Et donc la désidération, le désir, c'est ce qui nous sort de cette sidération, c'est ce qui nous remet en mouvement. Et l'étymologie ne vient pas du corps, mais de l'astral, ce qui est assez étonnant.
On entend la voix ici d'Anne Dufour-Montel après le titre « Desire » de Shams. Anne Dufour-Montel, dans « Le temps des écrivains » en septembre 2015, au micro de Christophe Onodibio, elle rappelle que l'étymologie n'est pas une étymologie liée au corps. Pourtant, c'est bien dans le corps que vous proposez de lire ce qui, de notre désir, s'exprime. Hélène Bonneau, pourquoi est-ce qu'il y a justement dans le fait de pouvoir lire ou laisser parler le corps quelque chose qui vous semble essentiel ?
Je répondrai simplement parce que le symptôme passe souvent par le corps. Et donc, c'est une façon d'attraper finalement le symptôme, qui est finalement la manifestation d'un désordre. Et aujourd'hui, plus particulièrement aujourd'hui, les manifestations du corps sont omniprésentes dans la façon dont les êtres de notre époque se présentent. Bon, ils étaient déjà, c'était déjà le cas à l'époque de Freud, mais aujourd'hui, le corps est parlé d'une façon souvent très présente dans les dans le discours de chacun. Et il y a des raisons à ça, c'est que il me semble en tous les cas que j'ai voulu d'abord, faut commencer par le début, j'ai voulu justement montrer que la psychanalyse s'intéresse au corps. On a tendance à penser que la psychanalyse s'intéresse surtout aux pensées, justement au désir, à l'inconscient, et que l'inconscient est une espèce de zone obscure, détachée du sujet, et que finalement le corps n'a rien à faire là-dedans. Or je pense l'inverse, je pense que tout l'inconscient c'est aussi le corps noué à la parole. Je pense que le corps parle, ou que le sujet parle avec son corps, pour le dire de la façon dont Lacan le dira à la fin de son enseignement. C'est-à-dire que le sujet est occupé par le symptôme de corps, et c'est ce symptôme de corps, ce symptôme corps, moi je l'appelle comme ça plutôt que de dire du corps parce que c'est un peu compliqué, le symptôme corps finalement est une façon de dire le malaise, aujourd'hui peut-être plus qu'avant.
Pourquoi aujourd'hui plus qu'avant ?
Parce que je pense peut-être, alors c'est une hypothèse évidemment, c'est très discutable, peut-être que on a un rapport à la parole qui a changé, on parle beaucoup, ce n'est pas que les mots soient usés, mais on n'y arrive pas forcément, on n'arrive pas forcément à dire ce qui ne va pas avec les mots, parce que ça ne passe plus dans le dans l'autre. Ça ne... Bon, c'est pour ça qu'on vient voir un psychanalyste, parce que on a l'impression que l'autre ne vous comprend pas ou ne vous entend pas. Et le corps, dans le fond, c'est une façon. Quand ça passe dans le corps, eh bien, comme ça, au moins, on sait où aller. On sait, on pense déjà qu'on va aller voir le médecin, se plaindre de son mal de tête, se plaindre de son mal de ventre. Et puis, finalement, concevoir que ce mal de tête ou ce mal de ventre n'ont pas de raison objective, parce que maintenant, on a vraiment les moyens scientifiques de bien le réaliser, et que, finalement, le corps qui souffre, c'est soi-même, en tant que sujet, qui en est la cause. Donc... C'est une façon de dire que ça ne va pas quand ça passe par le corps. Tout passe par le corps.
Y compris ce qui va bien, non ?
Mais bien sûr, ce qui va bien passe aussi par le corps. La satisfaction d'aller bien, ça se traduit aussi par le sentiment de sa légèreté, le sentiment d'être heureux, d'avoir d'être bien dans sa peau. C'est comme ça qu'on dit ça. Et quand on va mal, on dit qu'on est mal dans sa peau. Ce sont des métaphores, mais c'est une façon de dire à quel point finalement on parle avec son corps.
Puisque vous prononcez ce mot symptôme et dites que même cette idée du symptôme corps, quel est le lien qu'entretiennent le symptôme et le désir ?
Le symptôme, c'est ce qui entraverait le désir de s'accomplir. Puisque dans le fond, le symptôme, c'est ce qui se met en travers du désir. C'est en ça que finalement les deux sont noués. Le désir finalement si on reprend, par exemple, l'idée du désir d'enfant, certains symptômes se présentent dans l'histoire d'une femme et vont l'empêcher d'accomplir ce désir d'enfant. Ou elle ne va pas rencontrer le partenaire adéquat, ou elle ne va pas pouvoir mener à terme une grossesse, ou elle ne va pas pouvoir tomber enceinte, sans qu'on, évidemment, on trouve de raisons physiques à ça. Tout ça, ce sont des symptômes qui empêchent, qui entravent le désir de s'accomplir.
Et parfois, ce sont aussi des symptômes qui le révèlent, ce désir, parce qu'en l'entravant ou en l'empêchant de s'accomplir, les symptômes disent aussi que le désir existe, qu'il est là.
Tout à fait, c'est très important ce que vous dites, parce qu'en effet, il n'y a pas de meilleur moyen de savoir ce qu'on désire que de le sentir empêché. C'est une façon, justement, de nommer ce qu'il y a de plus désirant chez le sujet.
Et c'est en ça que le savoir libère le désir, c'est-à-dire le savoir sur le symptôme permet de découvrir ou de faire connaissance avec le désir.
Le désir est déjà là. Le désir est toujours là. Simplement, il est traumatisé, on va dire. Il est traumatisé par un certain nombre d'événements ou de paroles qui vous ont empêché d'arriver à ce que vous vouliez. Par exemple, dans une analyse, on peut très bien réaliser tout à coup que ce qu'on a fait toute sa vie, c'était satisfaire sa mère ou son père. Les désirs de ses parents. On le voit très souvent dans certains trajets professionnels, on se rend compte à ce moment-là que finalement on a accepté de faire des choix qui étaient finalement, on croyait que c'était les siens, mais on se rend compte que c'était ceux de ses parents et que d'une certaine façon on découvre en analyse que notre désir n'était pas là où on l'avait pensé, qu'il se sépare du désir des parents notamment. Bon, ça c'est assez banal de dire ça, mais en même temps il faut faire une analyse pour en saisir toute la portée et toute la difficulté aussi, parce que il faudra réinventer sa vie.
Ce qui est assez paradoxal, parce que vous dites combien est-ce qu'il est important d'être pris dans le langage, par le langage, dans le désir de l'autre, y compris avant la venue au monde. L'enfant est pris dans le désir des parents qui le désirent, et ensuite il doit se défaire de la manière dont il est pris par le désir des parents pour faire connaissance avec son propre désir, ou être dans son propre désir.
C'est un peu ça, en effet, parce que le désir de l'autre ne doit pas l'avoir contraint, ne doit pas l'avoir étouffé, ne doit pas avoir écrasé l'enfant. C'est tout le problème qui nous échappe complètement, d'ailleurs, de l'éducation. On croit aujourd'hui qu'on sait tout sur l'éducation, mais on ne sait rien du tout sur la façon dont on élève un enfant et dont on l'aide à grandir, etc. Par exemple, aujourd'hui, on pense que l'amour est le secret du bonheur, enfin, pour l'enfant. On croit que tant qu'il sera aimé, il pourra réussir dans sa vie. Enfin, que l'amour vaut pour... comme un cadeau merveilleux, et que c'est ça qui va permettre à l'enfant de devenir quelqu'un. C'est vrai. L'amour est extrêmement important dans la vie d'un sujet, c'est même fondamental. Mais en même temps, qu'est-ce qu'aimer un enfant? comment, on n'a pas de règles là-dessus. C'est en ça que chez l'être parlant, tout est compliqué. On croit qu'on aime et en même temps on aime mal ou on aime trop. C'est souvent ça le problème. Quand on aime trop. Quand on aime trop, on écrase ce que Lacan appelait justement le désir. Ce que Lacan appelle le désir, finalement, ça n'est ni, ça n'est pas le souhait, ça n'est pas le vœu. On veut aimer, on voudrait aimer, mais le désir, c'est ce qui finalement est un reste, finalement. C'est ce qui reste entre la demande et le besoin. C'est entre les filets du besoin et de la demande que ça s'écrit, le désir. Lacan a une très belle phrase, c'est « Le désir s'ébauche dans la marge où la demande se déchire du besoin ». Donc, et le désir, c'est quelque chose qu'on transmet sans vraiment savoir ce qu'on fait.
Aretha Franklin avec Say a Little Prayer for You. C'est vous qui avez choisi d'écouter cela, Hélène Bounot. Pourquoi ?
Parce que j'aime cette chanson et qu'on peut en effet l'entendre comme une petite prière, une petite demande adressée à l'autre. Et je trouve que c'est très, très parlant, très beau. C'est une très belle chanson.
Quand vous écrivez que le désir de l'analyste, c'est de mener le patient, celui qui vient l'analysant, vers son réel ou vers le réel, qu'est-ce que ça veut dire?
C'est une façon de dire que on le mène dans l'analyse lacanienne, on le mène au-delà de la question du sens. C'est-à-dire qu'on le mène là où on va atteindre ce réel, c'est-à-dire l'os finalement du symptôme, c'est-à-dire quelque chose qui résiste, quelque chose qui résiste à la parole. C'est-à-dire que, je vais peut-être vous choquer, mais dans une analyse, quand on fait évidemment des tours, et évidemment on peut s'arrêter après un tour, on peut s'arrêter après deux tours, si on est satisfait. C'est-à-dire que si on veut, si on a trouvé le moyen de bien vivre et d'être réconcilié avec soi-même, on peut arrêter l'analyse et l'analyste sera d'accord. Mais quand on veut devenir analyste, il faut avoir été un peu plus loin et avoir été au-delà de la question du déchiffrage et du sens. C'est-à-dire qu'il faut avoir rencontré cette chose qui est impossible à dire, cette chose qui résiste au sens, à la compréhension qu'on peut en avoir en tous les cas, et que Lacan a appelé le réel. C'est vraiment, pour le dire le plus simplement possible, c'est l'os du symptôme.
Pourquoi est-ce que vous pensez me choquer ?
Parce que l'idée de l'analyse, c'est tout simplement l'idée de la résolution sans reste du symptôme. C'est-à-dire, c'est l'idée que on va se soigner, on va se guérir avec les mots. En ayant compris pourquoi on souffre, quels sont les événements de notre vie qui ont été traumatiques, etc. Mais quand on a fait le tour plusieurs fois, déjà on a réduit, on finit par réduire
la graisse autour de l'os.
Voilà. Et ce reste est inéliminable, et c'est avec ça finalement qu'on analyse.
France Culture, Les Nouvelles Vagues, par Marie Hicheux.
14h53 et encore du désir. C'est ce que je veux, dit Henri Dougier à la sortie de sa visite du musée Inselnbruch à Düsseldorf. Le fondateur des éditions Autrement se souvient de certains des moments marquants de son parcours. Au micro de Romain de Becdelièvre, on l'écoute.
Improbable, improbable. Une arrivée à Neusch, petite ville pas loin de Düsseldorf, avec les systèmes de train allemands, ils sont fréquents, qui arrivent à l'heure, qui sont des petits tortillards sympas. Et près de Neusch, qu'il faut rejoindre à pied ou en bus, se trouve un lieu assez étonnant qui a été inventé par un industriel allemand dans les années 80. Un garçon qui avait une collection d'art, beaucoup de goût, et qui voulait faire quelque chose, un musée, je ne sais pas. Quelque chose de différent. Et la surprise, on arrive dans un lieu, d'abord c'est une sorte de grand marécage, avec beaucoup de végétation, des canards sauvages, des oiseaux, de tout. Bon, un lieu sauvage. Et dans ce lieu sauvage, une douzaine de petits pavillons blancs, très simples, sans fenêtres, une grande porte qui coulisse, qui permet sans doute de rentrer des choses, on ne sait pas lesquelles, et puis un toit translucide qui permet sans doute d'éclairer l'intérieur. Et on se promène sans guide, sans signalétique, sans rien. On est paumé au milieu des canards pour aller d'un pavillon à un autre, numéroté quand même, de 1, en fait il y en a 14, de 1 à 14. Et là, c'est la surprise. Surprise, c'est quoi? C'est que c'est l'improvisation organisée. C'est des mélanges d'œuvres d'art dans chaque lieu qui font de 50 mètres carrés à 300 mètres carrés, très différents les uns des autres, éclairés par le haut, translucides. Un mélange d'œuvres d'art non signées, non expliquées, enfin, pas de fiche de lecture, pas de catalogue, rien. L'émotion pure, nette, précise de ce mélange d'un cheval Ming à un Matisse, parce que l'homme avait des moyens pour se payer des toiles étonnantes, des figuratifs allemands. Mais le monde entier est là par objets d'art interposés, sculptures, peintures, objets. L'émotion absolue, parce qu'on est pris directement dans les tripes. Chaque œuvre d'art te parle ou pas, mais tu chemines doucement comme ça, dans le lieu, éclairé toujours par là-haut, avec un éclairage donc assez fin, et puis tu fais pas des comparaisons, mais tu fais des résonances, des effets de résonance entre une sculpture et un tableau, et puis tu passes à un autre. Bon. Et tu termines au bout de 3-4 heures en te disant, ça, c'est ça que je veux, c'est le musée inattendu, improbable, d'œuvres qui doivent te parler en direct. C'est ton émotion qui joue tout de suite, ton émotion à toi. Il n'y a pas de leçon, c'est pas scolaire, c'est pas organisé, c'est pas le musée tel qu'on le connaît. Voilà mon expérience de Homme-Broche, où je suis retourné deux fois, et chaque fois la même émotion, et mon rêve, que j'ai quand même un rêve, mais ce serait de faire la même chose.
Le son et la couleur, Sound and Color par Alabama Shakes pour terminer cette émission. Musique choisie par Somanina. Merci beaucoup Hélène Bonneau. Le corps pris au mot, ce qu'il dit, ce qu'il veut, c'est le titre d'un des ouvrages aux éditions Navarin Le Champ Freudien. Et l'inconscient de l'enfant du symptôme au désir de savoir, c'est le titre de l'autre ouvrage. Il est préfacé par Jacques-Alain Miller. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Les Nouvelles Vagues se réécoutent sur franceculture.fr, site sur lequel on peut s'écrire et se lire. Chose possible également via Twitter et Facebook. France Culture, vous pouvez aussi vous abonner au podcast de l'émission de sorte que chaque émission vous soit livré dans vos machines et automatiquement chaque jour. Cette émission est imaginée et préparée par Romain Debecq de Lièvre, Inès Duperron et Alice Ramon. Elle est réalisée par Somanina, avec à la prise de son aujourd'hui Nicolas Delmas et au droit d'auteur Julie Guéroux. On se retrouve demain, même heure, même antenne, dans un instant, Mathieu Garrigou-Lagrange et la littérature.